Quel est le rapport entre un smartphone et le film culte de Ridley Scott, Blade Runner ? Détour vers le futur lève le voile sur les liaisons dangereuses entre science et science-fiction.
Embarquer dans une voiture autonome, avoir une conversation avec son chatbot et lui faire rédiger sa thèse de doctorat, lire les pensées d'un humain à travers les images de son IRM décodées par l'IA. C'était dans les films de science-fiction il n'y a pas très longtemps et ça arrive maintenant dans nos vies quotidiennes. Les recherches en intelligence artificielle sont-elles inspirées par la science-fiction ?
Pour en discuter, nous recevons Ariel Kirou, journaliste, écrivain, essayiste, dans les imaginaires du futur entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale est le titre de votre dernier ouvrage. Bonjour Ariel Kirou.
Bonjour.
À vos côtés, Mathieu Serrurier, maître de conférence à l'université Paul Sabatier, chercheur en intelligence artificielle à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Bonjour Mathieu Serrurier.
Bonjour.
Le 12 février 1996, Garry Kasparov affronte Deep Blue, le logiciel d'IBM conçu pour jouer aux échecs. Humain 1, machine 0.
Je pense que j'ai fait du bon travail pour le monde des échecs et sûrement même pour l'humanité.
Un an plus tard, c'est la douche froide avec un brin de mauvaise foi dans la réaction de Garry Kasparov qui vient d'être mis échec et mat par la V2 de Deep Blue.
Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces.
Vexé le Garry. En tous les cas, cet événement marque un tournant dans les imaginaires des années 90. On commence à craindre vraiment que les machines puissent prendre le contrôle sur le monde. La réalité pourrait rattraper la fiction. Mathieu Serrurier, est-ce que ces années 90 marquent aussi un tournant dans l'histoire de l'IA ?
Ça marque un tournant dans l'histoire de l'IA, mais pas du tout, à cause
de Garry Kasparov,
ou même à cause méthodes qui ont été utilisées pour battre Garry Kasparov aux échecs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, vous avez plutôt la fin des années 90, vous allez avoir l'émergence de l'intelligence artificielle qui se base sur les données. Donc en grande partie, plutôt à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et c'est là que ça va exploser et précisément, les algorithmes qui sont utilisés pour battre Garry Kasparov, eux, ne sont pas focalisés sur les données. Donc, c'est plutôt des recherches d'intelligence artificielle sur ce qui se faisait. Alors, ça se fait toujours, hein. C'est pas limité à ça, évidemment, mais sur ce qui se faisait avant. Donc, ce résultat étincelant, eh ben, en fait, il marque le début d'un autre type d'intelligence artificielle.
Ouais, il y a un décalage, en fait.
Il y a un décalage par rapport à la perception des gens où il y a cette exposition-là. Ben, les gens, en fait, les chercheurs sont en train de travailler en majorité sur autre chose que ça.
Donc là, on a un bond en décalé sur la recherche et sur ce qui sort dans la société. Et dans la littérature, c'est encore un bond en avant, puisque les romans, la grosse explosion des films de SF, c'est plutôt dans les années 80. 80, 90, 2000.
Oui, c'est effectivement à partir des années 80. Effectivement, on en reparlera avec Blade Runner en 82, qui lance en quelque sorte une dynamique. Même si effectivement, les imaginaires de l'intelligence artificielle, qu'on n'appelle pas forcément ainsi, existent depuis bien longtemps. C'est-à-dire, on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais puisqu'on a parlé de Garry Kasparov, on pourrait citer 2001 l'Odyssée de l'espace, puisqu'au fond, en 1968, HAL 9000, HAL, hein, donc HAL, H-A-L, vous a rajouté une lettre, c'est IBM en fait, ouais. Hein, donc c'est juste un détail. C'est un bug, HAL 9000 bug quelque part, et il y a eu des thèses comme quoi en 97, il y aurait eu un bug, c'est-à-dire il y a quelque chose d'inattendu dans ce qui s'est passé dans cette IA pourtant symbolique. Hein, c'est-à-dire une IA qui n'est pas du tout de l'ordre du deep learning qui viendra après, il y aurait eu un bug. Il y a des tas de livres qui ont été écrits, des articles. Le bug de 97. Et en fait, voilà, parce qu'il y a eu un coup totalement imprévisible. En fait. Et donc, la logique des imaginaires, elle n'est pas connectée très directement, on va dire, à ce qui se fait en science, mais elle est comme un miroir en parallèle. Quelque chose. Et là, l'important, ce n'était pas le fait que ce soit une IA symboliste. L'important, c'était que quelque chose d'imprévisible s'est passé. Le deep learning, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte noire. On entre dans quelque chose différent, à la fois avec cet inconnu, cette imprévisibilité dans laquelle on rentre au niveau des imaginaires, et aussi via le cyberpunk. Hein, cyberpunk, punk et cyber, l'électronique, le numérique est partout. Et on peut peut-être le prendre de façon punk détournée. Mais il est dans notre écosystème. Il fait partie désormais de notre environnement. C'est les deux transformations liées à l'imaginaire, comme dans un monde parallèle avec ce qui se fait en science.
Et ce qui est troublant, c'est ce décalage qu'on observe aussi, par exemple, je pense alors au 21e siècle, on va parler du film Her, par exemple, avec ce décalage entre la sortie du film et puis ChatGPT qui sort... une petite dizaine d'années après le film, et finalement on se retrouve à parler quasiment avec ChatGPT comme Joaquin Phoenix parle avec son avec Samantha, le système de l'ordinateur du film Her de Spike Jonze. C'était dans les années, c'était en 2014,
c'est 2013 que sort le film.
Ce qui est drôle, c'est que là on est exactement, enfin c'est même pas qu'on est à peu près, c'est hormis la fin de, je vais pas spoiler la fin de Her, mais hormis la fin de Her où là on part un petit peu dans autre chose. Toutes les trois quarts de la première partie de Her, c'est, donc quasiment tout le film, c'est 100% quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Qu'on peut faire aujourd'hui, ouais. Enfin, que les gens font aujourd'hui. Et alors, peut-être pas aussi, c'est pas aussi populaire, ça ouais. touche pas autant de gens que dans Her, puisqu'il y a cet impact-là quand même dans Her de cette interaction sur la société. Là, on n'y est pas encore, mais ça va venir vite.
Après, c'est l'interface vocale dans Her aussi. Hein.
Elle y est aussi, hein. Ça coûte juste un peu cher pour le faire avec la même qualité que Her, mais par contre, les technologies pour le faire exactement comme Her, elles sont là. Si vous regardez les outils de synthèse vocale, qui marchent avec les mêmes types d'algorithmes que ChatGPT, des choses comme ça, on y est quasiment. C'est juste pour le temps réel, ça coûte cher.
Mais, sachant qu'effectivement, il existe Replica. Alors, on en avait parlé il y a un petit moment...
Oui.
Le jour où je suis tombé sur l'article, c'était dans l'IB, avec des témoignages de gens. Voilà, donc bon, j'ai découvert à ce moment-là, en fait, c'était en mai 2023, j'ai découvert Replica. J'ai découvert qu'il y avait plus de 2 millions de personnes aux États-Unis qui avaient une compagne ou un compagnon virtuel et avec des soucis parce qu'effectivement, quoi, ils étaient un peu amoureux, etc. Puis j'ai vu des citations, mais c'était les mots de Joaquin Phoenix, quoi. C'était un compagnon virtuel et. Des gens qui disaient c'est le meilleur moment de ma vie, interagissant, parlant à ce système d'exploitation, hein, en tout cas c'était le nom dans Her, donc à cette IA générative, et donc là on se dit mais c'est fou quoi. Les univers parallèles, c'est ces univers parallèles dont je parle, c'est-à-dire qu'il y a des en amont ou en aval, il y a des moments où ils sont séparés l'un des autres et des moments où ils se croisent. Et quand ils se croisent, on est juste là en se disant « Mais waouh, qu'est-ce qui se passe ?»
C'est très drôle avec Her, c'est qu'en plus, c'est le film le moins science-fictionnel du lot. C'est-à-dire qu'en termes de mise en scène ou de choses comme ça, on est dans une mise en scène
Où il n'y a pas de voiture volante.
Où la SF, elle est complètement derrière le capot, on ne la voit pas. Je crois qu'il est dans sa chambre d'hôtel ou chez lui.
Enfin, oui, il se balade, il va à la plage et tout. Ouais, c'est vraiment le naturel.
On est vraiment dans le naturel. Et bon, c'est celui qui a tapé pile.
Alors Replica, dedans. Il faut quand même rappeler que c'est aussi, ça fait partie de la famille des Deathbots, hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est l'origine du projet Replica, ça a été de créer, finalement de donner vie à un compagnon qui venait de décéder, hein, puisque c'est une femme qui a créé Replica, son compagnon est décédé, et comme elle était dans la tech, elle était développeuse d'IA, elle a voulu justement continuer à discuter avec lui, et elle a fabriqué ce Deathbot, donc ce chatbot qui nous permet de discuter avec un mort.
Avec l'idée du coup de le développer soi-même quand on est encore de son vivant pour développer son double numérique qui nous survivra au-delà. Donc c'est vrai que c'est...
C'est-à-dire que c'est là où justement, quelque part, ces imaginaires qui remontent à beaucoup plus loin, évidemment, que la discipline de l'intelligence artificielle, née en 1956, etc., etc., l'exposition le dit très bien, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, cette fascination, ce rapport, en quelque sorte, à la fois à la création d'intelligence et de vie, et à la mort, hein, et à l'extinction, quelque chose qui date depuis très longtemps, et bien tout simplement, systématiquement, régulièrement, ça revient et ça nourrit la création, ça nourrit la recherche de façon parfois dite ou de façon non dite. Voilà. Hein, et donc, on retrouve quoi, éternellement cette dualité que moi je fais naître un petit peu avec Héphaïstos, hein, le dieu forgeron, c'est le dieu de la technique.
Alors ça remonte à quoi, à l'Antiquité?
C'est l'Iliade, hein, c'est 7e siècle, 7, 8e siècle avant Jésus-Christ, et il crée des trépieds automatiques, d'abord, pour servir les dieux de l'Olympe, qui sont de grands paresseux, comme chacun sait. Et après, un chien, des chevaux automatiques, et puis ces fameuses servantes en or qui pensent et qui parlent, et c'est lié à la technique, c'est-à-dire que là, il y, il y a quelque chose de l'ordre d'un fantasme, d'un imaginaire, de création. Et c'est pas un hasard si c'est le dieu forgeron, en fait, qui crée ces êtres. Et donc, il revient sans cesse. Voilà, hein, c'est comme une sorte de retour en permanence. Non pas à l'identique, mais comme une sorte de métaphore, d'horizon inatteignable qui revient par boomerang.
Alors, Mathieu Serruri, vous qui êtes chercheur justement, aussi alors amateur de SF mais chercheur, est-ce que la SF a joué un rôle dans votre carrière, dans votre vie personnelle, pour vous inspirer peut-être à vous orienter vers des études, vers des recherches? Et aujourd'hui, comment la SF intervient ou pas, alors à votre insu peut-être, sur vos recherches?
Moi, je suis allé vers l'informatique pour ces questions-là, hein, parce que ça m'a toujours... J'ai lu... Nos Romanciens, assez jeunes, j'étais très influencé par
William Gibson.
De William Gibson, oui.
1984.
C'est ça. Et qui a été annoncé, qui va être adapté par chez Apple. Ça a été annoncé il y a 2 jours. Et on est dans l'actualité. Ouais. Et donc, moi, personnellement, oui, j'ai tout cet aspect-là de l'informatique, ça m'a beaucoup fasciné. On y retrouve un petit peu, il y a un côté créatif dans l'informatique que les gens ne voient pas forcément, mais quand on fait de l'informatique, on programme. Et quand on programme, on a vraiment l'impression de créer quelque chose, moi en tout cas. Et donc aussi, voilà, l'intelligence artificielle, ça participe de ça, mais aussi pour des raisons plus pragmatiques. Hein, c'est des matières qui font beaucoup intervenir les mathématiques. Moi, j'étais très fan de mathématiques, donc ça collait. Voilà, il y avait un alignement entre mes aspirations scientifiques et puis l'imaginaire qu'il y avait derrière. Donc oui, clairement, moi, ça m'a pas mal inspiré.
Et pour autant, vous travaillez, alors pas forcément dans la création de nouveaux outils qui vont être capables de trucs de fou, mais presque sur la question de la limitation. Vous voudriez limiter les machines ou empêcher des dérives?
Je ne travaille pas que là-dessus, mais ouais, effectivement, partie
vous travaillez
de...
sur l'explicabilité, la loyauté des machines. Expliquez-nous ce que ça veut dire, ça.
Enfin, non, je ne travaille pas que là-dessus, mais je travaille en grande partie là-dessus. Ouais. Et la question de la loyauté, hein, c'est juste de s'assurer qu'un algorithme va respecter éventuellement les lois qu'on lui... Enfin, les lois.
Oui, les règles qu'on lui...
Les règles, par exemple, vous n'avez pas le droit d'utiliser plein de critères dans la loi européenne. Vous n'avez pas le droit d'utiliser plein de critères comme le genre, la religion, etc., etc. Et il faut garantir que votre algorithme va le faire. Ouais. Et le problème des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, c'est des algorithmes qui travaillent à partir des données. Donc, comme elles travaillent à partir des données, elles vont refléter. Alors, soit vous avez mal récupéré vos données, il y a des biais, soit vous avez bien récupéré vos données, mais elles vont refléter l'état
de la société.
Vous avez des données de CV, par exemple, vous êtes sûr que vous aurez de la discrimination de genre, par exemple. Ça a été documenté, très bien documenté. Donc, vous allez les récupérer. Et votre algorithme, c'est un objet mathématique, il ne va pas se poser de questions. Il va utiliser les données, il va généraliser. Et donc, s'il y a un biais, il va le généraliser et il va l'utiliser après. Donc, il faut être capable de vérifier que ce n'est pas le cas. Et quand on vérifie, être capable de modifier l'algorithme de plusieurs façons pour qu'il soit en accord avec la loi, simplement. Donc, avec la loi ou avec l'éthique, il y a des questions. Enfin, ça dépend. C'est, mathématiquement, c'est la même question. Après, c'est politique, éthique et juridique. Là, c'est plus mon domaine, mais évidemment,
c'est
des cadres.
J'ai une anecdote qui va être assez drôle en complément. En fait, c'est qu'il y a un moment, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années, j'ai eu une discussion avec un designer d'algorithme, donc data, etc. Adam Greenfield, il travaillait sur l'Ubimedia, ce qu'on appelait l'Ubimedia. Et en fait, j'avais repéré dans son bouquin... qui parlait en fait d'une scène du roman Ubik de Philip K. Dick, dans lequel il y a le personnage d'Otschip, qui est une sorte de moins que rien, qui se fâche avec sa porte, qui l'empêche de rentrer parce qu'il ne veut pas mettre des sous. Et donc la porte le menace de faire un procès, il dit « je ne veux pas mourir du procès », etc. Et en fait, ce gars-là, donc Adam Greenfield, ce designer, m'a expliqué, m'a dit « voilà, moi, j'ai adoré ce moment, je l'ai relu je ne sais pas combien de fois, parce que ça m'a fait comprendre quelque chose. Ça m'a fait comprendre qu'il fallait apprendre la politesse aux machines. » En fait. Et en gros, allez, c'était l'époque où en fait la marionnette en chef de Google, donc Monsieur Schmidt, expliquait c'est génial, on s'en rendra pas compte, ce sera partout présent, l'air de rien. Et donc, avec Adam Greenfield, on s'est dit justement, ce que ça montre là, c'est que l'horizon qui devrait être le nôtre, c'est l'inverse de ça. Non pas que l'informatique soit partout présente, l'air de rien, en nous servant à l'insu de notre plein gré, mais bien au contraire. De faire en sorte que l'on puisse en permanence savoir qui nous parle, quelle machine, pourquoi et comment, donc apprendre la politesse aux machines. Mm-hmm. Donc la science-fiction de Philip K. Dick nous a permis, nous permet, a permis à Adam Greenfield de comprendre qu'il y avait un enjeu non seulement de loyauté, mais de politesse. Mmh. Qui parle ?
Adam Greenfield, qui a été un des inspirateurs du design émotionnel, hein, c'est ce qu'on appelle aussi en informatique le design émotionnel, c'est-à-dire le fait qu'on fasse simuler à la machine des émotions pour faciliter la communication ouais. avec les humains, hein, entre les humains et les machines.
C'est à peu près comme ça que fonctionne ChatGPT. Enfin, il y a une phase de ChatGPT qui s'appelle l'alignement dans l'entraînement. Donc, on part de données, on essaye d'entraîner un modèle à partir des données, donc un modèle de langage, donc quelque chose avec lequel vous allez pouvoir faire une conversation. Et une des parties de ce modèle, c'est l'alignement avec l'humain, c'est-à-dire qu'on l'entraîne.
L'alignement avec l'humain, j'adore.
C'est exactement comme ça que ça s'appelle.
Allez, tout le monde veut.
Human alignment. Et la partie d'alignement, c'est, on ne va pas rentrer comment on le fait, mais en tout cas, c'est l'idée de le pousser à produire des réponses les plus agréable possible à la personne qui l'utilise. Mmh. En tout cas, les réponses que les personnes vont préférer.
C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que ChatGPT est assez langue de bois quand même.
Alors, il y a d'autres raisons. Il y a cette raison-là. Et après, il y a tout un travail. On parlait de cyberpunk et de punk. Et en fait, c'est assez drôle parce que les GAFA se veulent punk, mais elles ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que dans le cyberpunk, elles croient que c'est les punks, alors que c'est plutôt les méga-corporations de l'autre côté. Et donc voilà, là où elles ne sont pas punk pour des raisons, c'est qu'elles ont très très peur du bad buzz. Et donc elles vont aller essayer de contrôler un maximum, pas forcément pour des raisons éthiques, hein, mais pour des raisons de com, en fait. Donc elles vont essayer de maîtriser un maximum les débordements, donc en la rendant la plus lisse possible, mais... C'est, à mon avis, c'est plus une volonté commerciale.
Oui. Alors, on va aller un peu aux racines, justement, du cyberpunk. En 2018, Cédric Villani publie un rapport intitulé « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Un rapport qui a été commandité par le gouvernement, hein, et qui a orienté les investissements et les orientations aussi de la recherche française en matière d'intelligence artificielle. On en sait quelque chose, nous, ici à Toulouse, avec ANITI, hein, l'Institut pour l'intelligence artificielle de Toulouse. Et chose curieuse, dans un rapport de ce type, Cédric Villani nous parle de science-fiction. Il cite les films 2001, l'Odyssée de l'espace, Her, ou encore Blade Runner, hein, le film de Ridley Scott de 82. Il nous dit carrément, c'est probablement cette alliance entre des projections fictionnelles et la recherche scientifique qui constitue l'essence de ce qu'on appelle l'IA.
Pourquoi parler tout le temps de Blade Runner ? Alors, pour nous remettre dans le bain, je vous propose d'écouter un petit extrait d'une des scènes iconiques du film, quand le réplicant Roy Batty fait face à Rick Deckard après lui avoir sauvé la vie. Alors c'est bien sûr sous une pluie battante, comme presque tout le temps dans le film.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
Et c'est un robot qui vous le dit. Ariel Kirou, pourquoi ce film constitue une référence dès qu'on parle d'IA ?
Plusieurs hypothèses. D'abord, je crois que il y a quelque chose, si vous écoutez un petit peu les dits transhumanistes qui pensent qu'on va devoir à terme forcément fusionner avec les machines sinon disparaître, il y a quelque chose en fait dans le monde, dans les imaginaires de l'intelligence artificielle qui est au fond cette double dimension de création et de mort, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'effondrement, hein, un sentiment que tout part à volo, et dans Blade Runner, tout est noir. Donc cette idée d'un monde qui va à sa ruine, elle est très présente. Donc l'effondrement d'un côté. Et de l'autre, la création. L'idée de se dire, est-ce que l'humain serait capable, aujourd'hui ou demain, de faire d'être le dieu par rapport à des machines, hein, d'être faire un acte de création, ce que lui interdit le décalogue de la Bible. Est-ce qu'elle serait ou pas capable? Parce que plus c'est interdit, plus on a envie de le faire de toute façon. Donc, et donc il y a cette dualité-là. Hein, quelque part, cette dualité, et je crois qu'elle est au fondement même de la magie qu'on éprouve, soit face à l'idée d'une IA, peut-être de plus en plus face à l'IA elle-même, ou face à cette création qu'on a, cet acte de création dont parlait tout à l'heure Mathieu, qui nous fascine. Voilà. Donc je crois qu'il y a tous ces éléments-là, en fait, et avec cette logique, cette confusion peut-être aussi donc de la... entre les gens, c'est une ambiance au fond, hein. C'est une ambiance, et puis c'est aussi autre chose je crois, c'est que ça nous parle parce que il y a déjà un filigrane dans Blade Runner, c'est au fond cette dualité que je vais retraduire de manière différente entre les imaginaires de la technologie démiurgique, le dépassement des limites, et les imaginaires de l'écologie avec la logique aussi post-apo qui est plutôt un imaginaire de retour aux limites, et que ce double imaginaire nous sidère, littéralement, parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre, et l'un avec l'autre, si on le pousse jusqu'au bout, il y a ce côté un petit peu sidérant, et on est fasciné par ce qui nous sidère, on essaye de trouver des solutions. Il y a en plus le rapport à la mémoire, qui est très fort dans Blade Runner, c'est un autre élément, en fait. Hein. Et la question de la mémoire, elle est évidemment très importante. Hein. Aujourd'hui, on parle de données, je veux dire, hein, mais la donnée n'est pas l'intelligence, la donnée n'est pas l'information, l'information n'est pas la donnée, et la mémoire, c'est ce qui reste, c'est la logique. Donc, au fond, c'est comme s'il y avait un sous-texte dans Blade Runner à un film qui, pourtant, ne parle pas d'IA, qui fait qu'effectivement, ça devient une valeur référence. Her, il y a très clairement une IA, même si elle s'appelle système d'exploitation. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est le premier moment où apparaît au cinéma, avec cet œil figé, quelque chose qui serait crédible par rapport à une IA. Il n'y a pas de corps. Son corps, c'est le vaisseau, hein, en quelque sorte. Et entre les deux, il y a Blade Runner, qui est au fond totalement dans la métaphore, au contraire de ces deux exemples de 2001 et de Heure, où là, il y a quelque chose de plus tangible, me semble-t-il, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui et les IA.
Alors, il y a aussi quand même un rapport à l'IA qui est le fameux test de Van Voigt, le test de Turing. Mathieu, qu'est-ce que c'est que ce test de Turing, peut-être, et nous dire comment vous, Blade Runner, vous a aussi inspiré.
Alors, j'ai pas l'impression, moi, que les gens perçoivent Blade Runner comme c'est un peu ce que vous disiez, hein, comme un film sur l'intelligence artificielle, en fait. Ouais. Ça en parle, mais... Même moi, naturellement, on m'aurait demandé un film qui parle d'intelligence. J'aurais pas forcément pensé... Enfin, si, à cause du test de Turing. Mais, donc, le test de Turing, c'est assez simple. Donc, quand je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que quand on a parlé du test de Turing, quand on dit que c'était nourri par l'imaginaire, quand Turing a proposé son test de Turing, il n'y avait pas à proprement parler d'intelligence artificielle. Il n'y avait même pas à proprement parler d'ordinateur capable de faire ces choses-là. Donc, il était vraiment complètement dans la prospection. Et la question qui se posait, la question du test de Turing, hyper simplifié, c'est est-ce qu'une personne est capable de se rendre compte si elle interagit avec une intelligence artificielle ou avec un humain, sachant qu'on retire la question du corps parce que l'interaction se fait par un ordinateur.
Par écran interposé.
Par écran interposé et sans parler. Donc
en tapant.
Justement pour dissocier, dès le début, on va dissocier le côté humanoïde, ouais, de la personnification de l'intelligence artificielle avec juste sa capacité à dialoguer. Et il y a... Bon, non. Et donc, si ce que je disais tout à l'heure, c'est que ChatGPT, dans la manière dont il est conçu, quand on parle d'alignement, eh ben, c'est justement ça, c'est cette étape d'alignement. Alors, elle n'est pas pensée comme je passe le test de Turing, mais en disant, bah, voilà, je vais aller essayer de l'aligner de manière à ce que ses réponses soient celles qu'on attend, enfin, que les humains préfèrent, donc sous-entendu que les humains, les réponses d'humains. Et ben en fait, on crée un petit peu un outil qui passe naturellement le test de Turing et donc qui trouble naturellement les personnes qui l'utilisent.
Oui. Après, il y a un autre élément justement qui est en rebond, qui me semble assez passionnant. C'est l'autre raison pour laquelle on associe, ou Cédric Villani, moi que j'aime beaucoup, associe Blade Runner à l'IA. C'est parce que, et là, ça, c'est vraiment un clin d'œil avec le titre IA double jeu, c'est parce que l'IA est d'une certaine façon un miroir de l'humain, un miroir de notre aujourd'hui, de ce qu'on fait, de ce qu'on est, en quelque sorte. Et ça, c'est excessivement important. C'est-à-dire, un miroir, il peut être déformant, mais ce n'est pas quelque chose qui serait séparé de nous. C'est inséparable de qui nous sommes. Et de fait, Blade Runner est un film sur l'humain. Il interroge l'humain. Hein, quand moi j'ai fait le documentaire sur Philip K. Dick, donc Les Mondes de Philip K. Dick, on a interviewé Roger Auer, il disait mais c'est pas un film sur les machines, c'est un film sur l'humain.
Les machines se comportent comme des humains.
Et voilà, et c'est la hantise.
Même pas trop.
Exactement, et la hantise, en fait, c'est pas que la machine fasse un boulot de machine mécanique et soit destructrice. La hantise, c'est que l'humain devienne une machine. Le questionnement, c'est Rick Descartes, est-il ou pas une machine, en fait. Et c'est ça, le problème fondamental. Et donc, pourquoi ça nous marque? Parce qu'au fond, la vraie question est là. La vraie question de l'IA, elle est. Est-ce qu'on va la suivre et devenir des êtres de plus en plus conformes, ou est-ce qu'on va réussir à se rendre compte que ce miroir qu'elle nous tend, elle nous dit « Mais vous êtes des crétins, tous pareils, vous êtes des clones culturels !» Et au point que moi, en vous sortant des trucs d'un commun absolument abyssal, vous vous dites que c'est génial. Donc vous êtes des crétins. Est-ce qu'on va être capable de sortir du crétinisme de l'IA, de la bêtise artificielle? C'est l'enjeu de l'IA.
Alors, juste pour rebondir, mais c'est un peu vrai. Sauf qu'en fait, mine de rien, ChatGPT et les discussions qu'on a, elles cachent complètement. On parlait de l'IA qui était dans le monde à notre insu, etc., etc. La question de ChatGPT, qui est quand même, ouais, effectivement, c'est la chose qui a explosé là, mais elle cache complètement la vraie utilisation massive de l'IA, qui est celle qu'on dit pas, qui est pas du tout des IA conversationnelles ou des choses qu'on voit, mais c'est principalement la publicité et la gestion. Là il y a la communauté européenne commence à s'inquiéter de l'algorithme de TikTok qui pousse à l'addiction, etc. Ouais, il est temps. Bah, surtout qu'en plus, l'algorithme de TikTok fonctionne absolument comme le même comme
Facebook,
celui de Facebook, de Twitter, etc. etc.
Instagram.
Donc, etc. D'Instagram aussi. Mais ouais, typiquement, la plus grosse application de l'intelligence artificielle aujourd'hui, une des plus grosses, c'est comme ça partout, elle est là. Et donc, on n'est pas du tout... Ça, c'est des questions que touchent le public qui sont hyper intéressantes parce qu'on y va et en plus, les entreprises qui le font jouent avec cet imaginaire-là. Mais ce qui joue quand même derrière en pratique, c'est une utilisation beaucoup plus pragmatique des algorithmes d'intelligence artificielle qui, eux, sont déjà partout et posent pas mal de questions et sont pas du tout dans l'imitation de l'humain. Là, on est dans... je fais des tâches répétitives extrêmement précises.
Mais alors que là, il y a quand même une question qui se pose, parce qu'effectivement, tous ces sites, Instagram, Facebook et compagnie, c'est détenu par quand même des grands noms, Elon Musk, Mark Zuckerberg et compagnie. Et puis, ils nous emmènent aussi quand même dans un imaginaire, bon, souhaitable ou pas, je laisserai à chacun le soin de juger, mais du coup, c'est qui aujourd'hui qui nous emmène, qui amène les imaginaires qui sont écoutés, suivis par ces industriels ou les auteurs et autrices de SF?
Alors, pas tous en même temps, premier.
Ouais, déjà, juste un rappel quand même, c'est que c'est le test Voicomp, c'est pas le test de Turing, c'est un test d'empathie.
Oui.
Non, je pense que c'est important.
C'est pas pareil.
Ouais. Voilà, c'est pas pareil parce que...
Absolument.
Oui, je pense que c'est... Justement, c'est pareil, un cran au-dessus. C'est-à-dire que pour Philippe K. Dick, tester une humanité, c'est aller tester son empathie, parce que pour lui, c'est justement ce qui va manquer.
Tout
pour
à
les
fait. Oui, oui. Oui, c'est très exactement, effectivement, ce qui pour lui est la clé, quelque part, de notre capacité à ne pas devenir des machines.
On peut répondre aussi à la question que je posais en introduction, c'est-à-dire le rapport entre un smartphone et Blade Runner, c'est aussi cet imaginaire de Blade Runner, du Nexus.
Ah oui, parce qu'effectivement, le jour où j'ai reçu le tweet de Andy Rubin, je ne sais pas si tout le monde connaît, peut-être pas
non.
Andy Rubin.
Qui est Andy Rubin?
Andy Rubin, c'est celui qui a créé la start-up Android.
Ouais.
Et qui s'est fait racheter par Google, je crois que c'était début année 2000, un truc comme ça. Je ne sais plus la date exacte. Et c'est un fan absolu de Blade Runner. Alors on ne le sait pas quand il est chez Google, on ne le sait pas. Sauf que ce gars-là, le 8 janvier 2016, il envoie un tweet. Bon anniversaire, Roy Batty. Roy Batty, c'est le réplicant, c'est Roger Hauer.
Qu'on a entendu sous la pluie. Mourir
donc,
sous la pluie.
Qu'est-ce qu'a fait Andy Rubin? Il a été revoir le film Blade Runner, repéré, c'est à peu près à la 15e minute, c'est plutôt vers le début. Il y a sur un écran dans un écran, une fiche d'activation qui est à l'écran, qui dure, allez, deux secondes?
Même pas.
Hein, même pas.
On n'a pas le temps de le lire,
voilà.
En vrai. Hein.
Donc, il a fait un arrêt image. Il a pris la photo. Il a noté sur son calendrier, ne pas oublier de citer l'anniversaire de mon pote Roy Batty. Et le 8 janvier 2016, il a envoyé bon anniversaire Roy Batty. Alors...
Oui, ça en dit long sur la mentalité.
Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a fait là? Parce qu'il n'était plus chez Google. Donc, plus de risque de procès avec les héritiers de Philippe K. Dick.
Oui,
premier point. Ensuite... avec le recul, on se dit, mais tiens, mais Quand Google a voulu montrer à l'ensemble des fabricants tout ce qu'on pouvait faire de génial avec leur système d'exploitation, qui était impossible à faire avec... qu'ils ne faisaient pas, quoi. Ils sont une bande de crétins à l'ancienne, opérateurs de je ne sais pas quoi, les fabricants. Et donc, il leur dit, on va nous-mêmes faire notre programme, on va leur montrer ce que c'est. Bon, comment on l'appelle ? On dit, on va l'appeler Nexus. Comme les Nexus 6. Les réplicants de Blade Runner.
Rien
parce
de
que,
moins.
Parce que vous comprenez, ce que nous sommes en train de créer, hein, dans plusieurs années, ce sera quoi ? Ce sera Blade Runner. Nous y serons enfin. Non, il n'y a peut-être pas dit ça. Mais en tout cas, voilà, entre le Nexus et le Nexus 6, et en fait, soudainement, on voit apparaître quelque chose qu'on ne voit jamais, qui est la façon dont les fictions jouent et se jouent de nous, se jouent du monde, en quelque sorte. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est des choses qui ne s'avouent pas, surtout en France.
Alors, on va rester dans la fiction et je vous propose d'écouter tout de suite le feuilleton SF de Licam et François Donato. Aujourd'hui, il s'intitule « Bonne pensée ».
Bienvenue à l'Institut Régulimplante, votre centre de maintenance à distance des appareillages cérébraux. Vous nous contactez pour 1.
Une optimisation.
2.
Un problème technique.
Veuillez penser aux chiffres correspondant à votre requête.
2. Un problème technique.
Merci pour votre réponse. Le test consiste à associer des mots par pair. Valise, plaid, arbre, tabouret, racine, chaleur. Veuillez penser à vos associations.
Valise avec racine. Arbre avec tabouret. Plaid avec chaleur.
Veuillez maintenant désactiver vos implants et autres neuroprothèses. Voici une autre série de mots à associer par pair. Étagère, coupelle, lampe, tasse, fruit, clarté. Concentrez-vous et veuillez penser à vos associations.
Étagère avec coupelle.
Ne pas paniquer.
Tasse avec clarté.
Ça ne va pas.
Fruit avec lampe.
J'ai encore tout raté.
Nous traitons vos réponses. Nous avons effectivement détecté une défaillance. Veuillez réactiver vos implants et autres neuroprothèses. Nous allons procéder à leur recalibrage à distance. Cela prendra quelques secondes. Pour ce faire, nous devons court-circuiter vos processus cérébraux pendant l'opération. Vous serez dans l'incapacité de penser, ce qui peut engendrer un petit inconfort. Opération terminée. Nous allons maintenant procéder à une nouvelle évaluation. Veuillez songer à plusieurs mots comme ils vous viennent, sans chercher à les associer de manière logique. Nous allons opérer à des ajustements durant le monitoring.
Souci, travail, efficacité,
non,
collègue,
non,
crainte, calme,
chambre,
fenêtre,
rayon,
crainte,
Les défaillances dues au stress ont été corrigées. Veuillez nous recontacter si le problème persiste. Vous pourriez avoir besoin de nouveaux ajustements. Nous vous remercions de votre confiance. Bonne pensée à vous.
Texte Licam. Voix Corinne Mariotto. Sound design et réalisation François Donato.
Allez, pour terminer cette émission, Ariel Kirou, est-ce que la SF peut nous aider à imaginer d'autres futurs de l'IA ?
J'adore l'ICAM. Voilà, bon, qu'est-ce que je dise ? J'ai adoré Résolution, dans lequel il y a une IA psychologue qui s'appelle Sun, qui est dans un monde en transition. Ce qui est génial dans Résolution, c'est que ça commence par la première IA dont elle parle, c'est des IA marketing, des IA qui nous détruisent en quelque sorte. Et puis après, c'est une IA psychologue, une sorte d'autre type de... et puis dans Visite, que j'aime beaucoup, qui est écrit dans une langue un peu complexe, effectivement, puisque c'est une langue très inclusive, mais qui heurte un peu à la lecture. Là aussi, c'est génial. Et on voit d'ailleurs la neuroprothèse, en fait. Pour elle, c'est très important, hein, ces logiques de neuroprothèse qui, par rapport à des personnes en situation de handicap, peuvent aider. Donc, je crois que l'ICAM, ce petit bijou là que je viens d'entendre, et tout comme ces romans, nous montrent de manière extraordinaire, en fait, de quelle façon la science-fiction peut... Alors, elle ne fera jamais rien tout seul, bien évidemment. Hein, mais lorsque vous lisez un texte, lorsque vous voyez un film, parfois ça disparaît, mais vous avez en vous une sorte d'océan, de mémoire, de choses, de vécu. Et puis, il y a des petits îlots qui sont sous l'eau, parce qu'ils ont disparu, puis ils ressortent parfois en fonction d'événements de votre vie. Et puis, soudainement, vous allez penser à tel événement, à telle nouvelle. Alors, parfois, c'est des grosses îles, comme pour Andy Rubin, Blade Runner, et puis Roy Batty, parce que là, il en a fait quand même quasiment une sorte de paquebot, quoi. D'autres fois, c'est des petites embarcations, et ça... Donc, moi, autant je pense que les fictions ne font rien toutes seules, autant je pense qu'elles ont aussi parfois un côté plus ou moins performatif, mais associé à des tas d'autres éléments de mémoire, des histoires, des connaissances, des enquêtes. Et je pense que c'est tout ça qui fait qu'on va potentiellement changer, évoluer, être éveillé, changer de point de vue. Ou au contraire, hein, parfois il y a la dissonance cognitive et qui fait qu'on ne veut rien entendre.
Et vous, Mathieu, est-ce qu'il y a des romans, des histoires, des narrations, des auteurs, des autrices, peut-être plus contemporains, contemporaines, qui vous inspirent aujourd'hui ou qui vous emmènent vers d'autres imaginaires dans vos travaux de recherche et dans les travaux de recherche du labo ?
Alors, dans les travaux de recherche, pas tant que ça, là, maintenant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on va quand même sur des problématiques qui vont être beaucoup plus théoriques et pragmatiques.
Forcément.
Mais par contre, j'ai envie de dire un petit peu dans l'autre sens, il y a un risque avec la science-fiction, qui est la façon dont les gens vont l'utiliser, notamment les gens de la tech, pour détourner un petit peu l'attention. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Elon Musk qui va parler de singularité, de choses comme ça. Même là, dont on a parlé, c'est à la fois fascinant et en même temps, ça peut éventuellement détourner l'attention, parce que voilà, on a envie d'avoir ce genre de discours-là. Ça peut détourner l'attention de problèmes qui sont des problèmes, pour le coup, bien contemporains et qui sont déjà là. En fait, c'est même pas des problèmes à anticiper, c'est des problèmes qui sont déjà là. Et comme vous disiez tout à l'heure, Ariel, c'est rigolo, c'est-à-dire que normalement aussi la science-fiction, c'est un peu censé donner des garde-fous. Enfin, il y a une idée de garde-fou.
Alerter.
Et là, bon, bah, ça s'est pris comme un mode d'emploi. Donc, mais voilà, pour moi, il y a une part de com aussi là autour de la science-fiction, qui est finalement un moyen de la détourner pour essayer de détourner le regard vers les choses qui se passent. Ça, c'est un peu un risque.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la science-fiction, la fiction de manière générale, c'est comme la technique. C'est Bernard Stiegler, le philosophe, qui disait que c'était un pharmacon. C'est à la fois le poison et l'antidote. Il en est de la fiction comme de la technique, à mon sens. Et sur ce registre-là, il est évident qu'ils en font une caricature. Ça veut donc dire que les auteurs de science-fiction, s'ils vont jusqu'au bout de la métaphore sur l'humain, ils sont parfois beaucoup plus éthique, savant et intéressant que certains scientifiques caricaturaux, notamment américains.
Alors vaste sujet, hein, vous l'aurez compris, il y aura beaucoup à dire. Je vous recommande chaudement Dans les imaginaires du futur, votre ouvrage Ariel Kirou qui explique toutes ces idées.
Puis, il y a aussi mon abécédaire du monde d'aujourd'hui vu au travers de Philippe Cadic, dans lequel je parle de tout ça.
Exactement. Et puis pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir visiter notre expo aussi au Quai des Savoirs, IA Double Jeu, jusqu'au 3 novembre prochain, dans laquelle vous retrouverez ces imaginaires de l'IA décryptés par Ariel Kirou et bien d'autres choses encore.
Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Ariel Kirou et Mathieu Serrurier.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci aussi à l'ICAM pour son texte et au studio de François Donato pour la création sonore.
Détour vers le futur, un podcast présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac.
Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Codoul. Abonnez-vous à Détour vers le futur sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme préférée pour écouter nos prochains épisodes. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.